Alors, pendant que vous cherchez, c'est la fête des mères, je vais vous donner un autre petit récit que j'ai pigé, là, ici. Une jeune fille de 8 ans écrivait une note à sa mère pour la fête des mères. « Chère maman, voici une boîte de bonbons. Je l'ai achetée pour la fête des mères. Ils sont vraiment délicieux, je le sais, parce que j'en ai déjà mangé 3. » Si vous deviez donner une définition concernant l'adoration, quelle serait-elle? Pour ma part, je crois que l'adoration consiste à profiter de la présence de Dieu. Et c'est le sujet que j'aimerais traiter avec vous aujourd'hui. Comment apprécier ou profiter de la présence de Dieu? Et frères et sœurs, plus j'étudie les Écritures, plus je vois Dieu à l'œuvre dans ma vie et plus je réalise que le bien le plus grand, l'accomplissement le plus merveilleux, c'est de connaître Dieu infiniment et de bénéficier de sa présence. Quel privilège que celui de profiter et de bénéficier de la présence de Dieu dans sa vie. Permettez-moi de vous poser une question. Connaissez-vous Dieu personnellement? Je ne demande pas si vous avez déjà entendu parler de Dieu, comme si vous avez déjà entendu parler du premier roi des Belges. Je vous demande si vous connaissez Dieu personnellement. Est-il aujourd'hui, à l'instant où je vous parle, une réalité vivante qui éclaire vos pensées et votre vie? Si c'est le cas, vous connaissez la plus profonde des joies qui puissent remplir le cœur de l'homme. Vous avez comblé le plus grand besoin de votre âme. Pardon. Et vous avez atteint ce pourquoi vous avez été créé. Vive une relation avec le Créateur. Connaître Dieu personnellement. Voilà un des buts pour lesquels le but suprême pour lequel nous sommes sur la terre. Car adorer, frères et sœurs, c'est profiter, c'est bénéficier de la présence de Dieu. C'est tout ce dont nous avons besoin, rien de moins et rien de plus. Vous dites amen à ça? Oui. Rien de moins et rien de plus. Combien de chrétiens aujourd'hui ne ressentent pas la présence de Dieu dans leur vie? Pourtant, ils fréquentent l'Église, ils chantent des cantiques, ils peuvent dire amen à la prédication, mais il y a un engourdissement, une sécheresse et un vide dans leur vie. Permettez-moi de vous lire quelques-uns des mots les plus difficiles à entendre dans toute la Bible. Et on le trouve ici. Au chapitre 33, les versets 1 à 3 du livre de l'Exode. L'Éternel dit à Moïse, « Vas-y, pars d'ici, toi et tout le peuple que tu as fait sortir d'Égypte. Monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob en disant, « Je le donnerai à ta descendance. J'enverrai un ange devant toi et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Hittites, les Phérisiens, les Éviens et les Jébusiens. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel. Mais je ne monterai pas au milieu de toi, de peur que je te fasse disparaître en chemin, car tu es un peuple aux coups raides. » Quels sont ces mots difficiles à entendre ce matin, frères et sœurs? C'est d'entendre dire Dieu, je ne monterai pas avec toi. C'est-à-dire, je ne serai pas au milieu de vous. Ce sont des mots extrêmement difficiles à entendre. Alors que l'adoration, c'est de bénéficier, de profiter de la présence de Dieu au milieu de nous, en nous et au milieu de nous. Prions. Seigneur, nous voulons te rendre gloire pour ta parole ce matin. Merci Seigneur aussi pour tout ce que tu fais dans chacune de nos vies. Merci parce que tu es ce Dieu qui veut manifester sa gloire au milieu de son peuple. C'est-à-dire manifester sa présence, manifester sa puissance, et manifester ses attributs, c'est-à-dire le fruit de l'Esprit. Seigneur, nous voulons te rendre grâce encore une fois ce matin pour ta parole que tu nous as donnée, pour ce pays aussi, pour nos gouvernements, qui nous permettent de pouvoir nous rencontrer librement, de pouvoir partager, Seigneur, ce trésor que tu nous as laissé, non seulement la parole incarnée, mais la parole écrite, qui nous permet de grandir et de progresser dans notre foi et dans notre connaissance de la personne de Jésus-Christ. Et c'est en lui que nous te prions, et le peuple de Dieu dit « Amen ». Quelle était maintenant la situation des Israélites ici? Le peuple juif se trouvait dans le désert. Dieu avait donné une alliance à son peuple et il avait promis de lui donner un pays en héritage. Alors qu'ils se dirigeaient vers la terre promise, les Israélites vont pécher contre Dieu et il va leur dire, très bien, j'ai promis de donner ce pays à où coule le lait et le miel à vos ancêtres, mais je ne vous accompagnerai pas. C'est un ange qui va vous escorter jusqu'à la terre promise et quand vous arriverez dans ce pays, vous verrez combien il est florissant. Dieu dit, je ne serai pas au milieu de vous. N'est-ce pas terrible, frères et sœurs, d'être privés de la présence de Dieu? Ils avaient été libérés des Égyptiens. Ils possédaient des biens. Il bénéficiait de la protection de Dieu, mais il ne bénéficiait pas de la présence de Dieu. À quoi sert d'avoir tout, sauf l'essentiel, la présence de Dieu? Ils avaient tout. Ils avaient les biens. Ils bénéficiaient de la protection de Dieu. Mais il n'y avait pas la présence de Dieu au milieu du peuple. « Je vais vous envoyer un ange, dit le Seigneur, pour vous aider à arriver dans ce pays où coule le lait et le miel. Mais moi, je ne serai pas au milieu de vous. » N'est-ce pas épouvantable ce matin, frères et sœurs, qu'on se rencontre dans ce lieu le dimanche matin à 10h et que je puisse vous annoncer ce matin, plutôt que de vous dire là où deux ou trois sont rassemblés en son nom, Jésus est au milieu de nous, je vous annonce, le Seigneur n'est pas au milieu des siens ce matin. Quelle terrible nouvelle pour le peuple de Dieu! Quelle terrible nouvelle! Vous pouvez vous imaginer quand Dieu dit ça à Moïse. Quelle terrible nouvelle! Je vous ai libéré des Égyptiens. Vous êtes partis avec des biens. Vous avez un héritage. Vous possédez tout. Mais sachez, je ne serai pas au milieu de vous. Je ne vous accompagnerai pas. Je vais vous donner un ange qui va vous guider, qui va vous protéger, qui va vous conduire jusque dans la terre promise. Il ressemblait à un couple vivant dans la même maison dont le mari prend soin de son épouse, mais qui dorment dans des lits séparés. Frères et sœurs, nous ne contentons pas d'avoir été libérés du monde, de posséder des biens, de bénéficier de la protection de Dieu, parce que ce qui compte vraiment, c'est de bénéficier de la présence de Dieu dans nos vies. Tu t'amènes à ça? Regardons maintenant le contexte. Moïse ici était monté sur le Sinaï, chapitre 32. Il était monté pour recevoir les 10 commandements et les instructions pour le tabernacle. Pendant l'absence de Moïse, son frère Aaron va succomber aux demandes du peuple et ils vont se révolter contre Dieu. Le peuple lui dit, « Fais-nous un Dieu qui marche devant nous. » Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Frères et sœurs, heureusement que Dieu nous a laissé sa parole, on est tellement oublieux. On est tellement rapide à oublier les prodiges, les miracles que Dieu a accomplis dans ma vie. Échanger le Dieu Tout-Puissant, échanger cette colonne de feu, cette colonne de fumée, pour un veau en or. Et penser et croire que c'est ce veau qui les avait délivrés. Frères et sœurs, heureusement que Dieu est lent à la colère. Et en français courant, lent à la colère, c'est quoi? C'est Dieu est patient. Heureusement. Quel Dieu merveilleux nous avons! Un Dieu patient qui ne nous traite pas comme nous le méritons. Il est patient. Le peuple lui dit, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Incroyable! Ils sont en train de dire à Aaron, nous ne savons pas ce qui est survenu à Moïse. Il est parti depuis si longtemps, peut-être qu'il ne reviendra jamais. Nous avons besoin de quelqu'un qui va nous guider. Nous avons besoin de quelqu'un qui va nous aider. Nous avons besoin de quelqu'un qui va nous diriger. Lisons ensemble Exode 32, les versets 2 à 10. Pour ceux qui ont leur Bible. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en métal fondu. Et ils dirent alors, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. On n'a même pas sauté une génération, frères et sœurs. Ils ont été témoins des miracles que Dieu a accomplis à travers l'Égypte, que Dieu a accomplis en les ayant fait sortir de l'Égypte. Et qu'est-ce qu'ils disent ici? Voici ton Dieu, Israël, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsqu'Aaron vit cela, il construisit un autel devant lui, il s'écria, « Demain, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. » Le lendemain, ils se levèrent de bon matin, et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger, pour boire, puis se levèrent pour se divertir. L'Éternel dit à Moïse, « Vas-y, descends, car ton peuple, celui que tu as fait sortir d'Égypte, s'est corrompu. Ils se sont bien vite écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en métal fondu. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices et ils ont dit, « Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Maintenant, laisse-moi faire. Ma colère va s'enflammer contre eux et je vais les faire disparaître. » tandis que je ferai de toi une grande nation. » Frères et sœurs, on est en présence d'un leader formé à l'école de Dieu, d'un leader qui réagit pas selon la chair, mais d'un leader qui va réagir avec compassion, avec amour, qui va intercéder pour le peuple de Dieu, alors qu'il ne le mérite même pas. Et frères et sœurs, dans l'Église de Jésus-Christ, on n'a besoin pas des leaders avec des capacités naturelles, mais des leaders qui ont été à l'école de Dieu et qui vont manifester le caractère de Dieu pour être capable de diriger son peuple. Regardez les versets 11 à 14. Moïse implora l'Éternel son Dieu. « Pourquoi, Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? » Vous rappelez-vous la prière d'Abraham dans Genèse chapitre 18, qui supplie, qui implore le Seigneur d'épargner Sodome et Gomorre. Et ici, Moïse supplie le Seigneur. Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de dessus la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère et repens-toi du mal que tu veux faire à ton peuple, Seigneur. Souviens-toi d'Abraham, Isaac et de Jacob. Souviens-toi de tes serviteurs. Et l'Éternel, verset 14, se repentit du mal. Il avait déclaré voir faire à son peuple. Et comme Moïse approchait du camp, chapitre 19, versets 19 et 20, Exode 32, il vit le peuple en train de festoyer, commettre des actions immorales, faisant des choses terribles et dansant autour d'un veau d'or. La colère de Moïse s'enflamma. Il jeta de ses mains les tables et il les brisa au pied de la montagne. Il prit ensuite le veau qu'il avait fait et le brûla au feu. Il le réduisit en poudre, répandit cette poudre à la surface de l'eau et fit boire les enfants d'Israël. 3000 hommes, verset 28, 3000 hommes ce jour-là périrent. Verset 30 à 32, Exode 32. Le lendemain, il dit au peuple, « Vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers l'Éternel. Peut-être obtiendrai-je le pardon de votre péché. » Moïse retourna vers l'Éternel et dit, « Ah, encore une fois, il est en train d'implorer l'Éternel. Ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un Dieu en or. Pardonne maintenant leur péché. Efface-moi de ton livre que tu as écrit. » Hey! De quel livre Moïse est en train de parler? Psaume 69, si je ne me trompe pas. De quel livre Moïse est en train de parler? Du livre de vie. Où lorsque votre nom est inscrit, il vous accorde le droit d'entrer dans le royaume de Dieu. Moïse, efface-moi de ton livre. Quel leader! Quelle compassion! Il est prêt à donner sa vie pour sauver la vie du peuple. Ça vous rappelle pas quelqu'un? Jésus était prêt à donner sa vie pour sauver le monde. Animé de cet esprit de Jésus, animé de cette compassion, de cet amour pour les autres. Et si Moïse avait marché seulement un petit peu par la chair, quand le Seigneur y a annoncé qu'il détruirait son peuple, qu'est-ce qu'il aurait dit Moïse? Seigneur, ça fait longtemps que j'attends après ça. Ils me font suer depuis qu'on est en Égypte. Ils m'ont fait suer quand on est en Égypte, ils m'ont fait suer depuis qu'on est sorti. Seigneur, j'attendais que ça, que tu les détruises, pour avoir un peuple qui serait conforme à ce que je veux, qui va toujours m'écouter, qui va toujours dire oui, amen à ce que je dis. Mais non, hein. Moïse, il fonctionne pas dans sa chair ici. Il est allé à l'école de Dieu. Et il intercède devant le trône de la grâce de Dieu. Il connaît le prix élevé d'une vie. Il connaît son Dieu. Il a passé 40 ans à être formé par son Seigneur. Il était prêt à prendre cette relève pour diriger le peuple vers la terre promise. Et il intercède. Deuxième intercession de Moïse, versets 30 à 34. Seigneur, je suis prêt à ce que tu effaces mon nom du livre de vie. Je suis prêt. Afin que tu puisses épargner le peuple. Moïse prie et intercède pour le peuple. Il est même prêt à être rejeté de Dieu pour que le peuple soit épargné. Dieu lui dit, vers chapitre, très bien, je ne vais pas les détruire, Moïse. Je vais les faire entrer dans le pays que j'ai promis de leur donner. J'enverrai mon ange qui marchera devant toi. Je vais les protéger. Exode 33, verset 1 à 3, pardon. Je vais les protéger. Je vais pourvoir leurs besoins. Mais je ne monterai pas au milieu de toi. Frères et sœurs, ne nous contentons jamais d'une proposition comme celle qui vient d'être faite à Moïse. ne nous contentons pas de savoir que Dieu nous protège, que Dieu pourvoit nos besoins, et que Dieu, finalement, et que nous sommes en route vers la terre promise. Que vaut toutes ces choses si Dieu n'est pas au milieu de nous, frères et sœurs? Lorsque nous avons la certitude que Dieu est au milieu de nous, nous n'avons pas besoin de rien d'autre. Amen. On n'a pas besoin de rien d'autre. Souvent, on va tout chercher le reste plutôt que de s'organiser, d'avoir l'assurance que Dieu est au milieu de nous, que Dieu vit en nous, qu'il est présent en nous, qu'il est présent au milieu de nous. La première chose, c'est d'abord, Seigneur, est-ce que tu es présent dans ma vie? Seigneur, est-ce que tu vis dans mon cœur? Seigneur, est-ce que tu vis au milieu de ton peuple? Parce que, Seigneur, si c'est tel est le cas, Seigneur, tu vas manifester ta gloire en moi et parmi ton peuple. Le combat spirituel, il est là, frères et sœurs. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair. Et quand on tombe là-dedans, frères et sœurs, qu'est-ce qu'on cherche? Des possessions, acquérir des biens. Avoir la santé, avoir ci, avoir ça. Et finalement, d'avoir la présence de Dieu, souvent, ça passe en dernier lieu. Mais ce qui compte pour un enfant de Dieu, c'est d'avoir l'assurance que Dieu est présent dans sa vie. Vous vous demandez comment cela s'explique-t-il à moi ce matin, pasteur? Comment cela s'applique-t-il à moi ce matin, pasteur? Eh bien, il y en a plusieurs qui disent, je suis sauvé, j'ai la vie éternelle, mais j'ai perdu ma joie. Et je n'ai pas la victoire dans ma vie chrétienne. Dieu n'est pas une réalité pour moi, et pourtant j'espère aller au ciel. Malheureusement, pasteur, je ressens pas la présence de Dieu dans ma vie. Je sais que Dieu veille sur moi. Je sais qu'il pourvoit mes besoins. J'ai la promesse qu'il sera là. Mais je ne ressens pas sa présence dans ma vie. Frères et sœurs, il ne faut pas penser, parce que Dieu pourvoit vos besoins et qu'il vous protège, que vous êtes droit avec Dieu. Vous pouvez être en route pour le ciel, mais en vous contentant d'occuper un siège de seconde classe. Je vous rappelle que Dieu pourvoit même aux non-croyants, dans le manger, le boire, le vêtement et le logement. Jésus nous dit qu'il fait lever son soleil autant sur les bons que sur les méchants. Et il fait pleuvoir sur ceux qui agissent bien comme ceux qui agissent mal. Nous pouvons tellement être préoccupés à chercher et à obtenir toutes ces choses que nous pouvons perdre de vue l'importance que Dieu soit présent en nous et avec nous. Cependant, les Israélites le savaient mieux que quiconque. Et merci Seigneur qu'ils s'en rappelaient. Chapitre 33, verset 4. Lorsque le peuple entendit, frères et sœurs, quand Dieu dit, je ne serai pas présent au milieu de son peuple, regardez ce que les Israélites disent. Lorsque le peuple entendit cette parole de malheur, oh, quel malheur que Dieu ne soit pas au milieu de son peuple! C'est un malheur! Parce que c'est tout ce qui compte pour eux. Ils l'ont vu en Égypte quand Dieu était au milieu de son peuple, qu'est-ce qui s'est passé? Ils l'ont vu comment Dieu s'est débarrassé de l'armée des Égyptiens parce que Dieu est au milieu de son peuple. Mais là, c'est une parole de malheur pour eux. Dieu dit, je ne serai pas au milieu de mon peuple. Mais j'ai compassion, je vais envoyer mon ange. Oui, Moïse, je réponds à ta prière, je vais envoyer mon ange. Mais sache que je ne serai pas au milieu de mon peuple. Il est bon de se rappeler que c'est une très mauvaise chose de recevoir des dons sans bénéficier de la présence de celui qui donne les dons. Il est bon de se rappeler que c'est une très mauvaise chose de recevoir des bénédictions sans bénéficier de la présence de celui qui bénit. Il est bon de se rappeler que c'est une très mauvaise chose de recevoir des promesses sans bénéficier de la présence de celui qui accorde ses promesses. Oui, c'est une chose terrible, frères et sœurs, de ne pas bénéficier de la présence de Dieu dans nos vies. Est-ce que Dieu est une réalité dans votre vie ce matin? Est-ce que la présence de Dieu est une réalité pour vous aujourd'hui, frères et sœurs? Ou faites-vous simplement votre devoir en venant à l'église le dimanche matin, tout en n'étant pas vraiment intéressé? Si c'est votre cas, ce message est pour vous ce matin. Parce que l'adoration, c'est apprécier, c'est profiter de la présence de Dieu. Nous allons voir ensemble ce matin que c'est tout ce dont nous avons besoin. Rien de moins et rien de plus. Qu'est-ce qui nous rend si différents des autres nations, frères et sœurs? C'est le fait que Dieu manifeste sa présence au milieu de nous. Dites amen à ça. À l'époque de Moïse, Dieu manifestait sa présence au milieu du peuple d'Israël. Et aujourd'hui, frères et sœurs, j'espère que vous en êtes convaincus, Dieu manifeste sa présence au milieu de son peuple. La présence de Dieu, c'est une des trois choses qui font référence à la gloire de Dieu. Et c'est pas magnifique quand on rentre le dimanche matin, on rentre, on a l'assurance que Dieu est présent parmi son peuple, et là, quand on quitte, on a la certitude dans notre cœur, on parle avec notre voisin, et on dit, oui, j'ai la certitude que Dieu était là ce matin. J'ai la certitude que Dieu était présent ce matin dans l'Église. Il m'a parlé. Amen. Oui, que vous ayez la certitude que Dieu est présent ici ce matin. J'aimerais mentionner quatre choses. On va en mentionner juste une ce matin parce qu'on n'aura pas le temps, mais une chose, on va continuer la semaine prochaine. J'aimerais mentionner une chose et dire que ces choses sont les mêmes, mais quatre choses en fait que j'aurais dû dire sont les mêmes qui nous priveront de la présence de Dieu dans notre vie et qui nous empêcheront d'apprécier sa présence. Quelles sont maintenant ces quatre choses? La première, qu'est-il arrivé à Israël pour que Dieu dise « Je ne les exterminerai pas » Exode 33, verset 3. « Mais j'enverrai plutôt mon ange et je ne serai pas au milieu d'eux. » Frères et sœurs, ils avaient désobéi à Dieu. Regardons encore une fois Exode 32, versets 7 et 8. L'Éternel dit à Moïse, « Vas-y, descends, c'est ton peuple, celui que tu as fait sortir d'Égypte, c'est corrompu. » Avez-vous remarqué une chose? Avez-vous remarqué une chose ici? Le Seigneur appelle maintenant son peuple le peuple de Moïse. Il ne dit pas « Mon peuple, c'est corrompu. » Ton peuple, Moïse, s'est corrompu. Hey, Dieu veut rien avoir à faire avec le péché, hein? Hey, Moïse! Ton peuple, Moïse! Ton peuple! Je mets une séparation entre moi et le péché. Ton peuple, Moïse. Mais je vais t'utiliser, Moïse. Je vais t'utiliser pour purifier mon peuple. Pour qu'il puisse être amené à la sanctification. Ils se sont bien vite écartés de la voie que je leur avais prescrite. Et parce qu'ils avaient désobéi à Dieu, Dieu s'est retiré de son peuple. Vous savez quel est le problème avec beaucoup de chrétiens, frères et sœurs? Certains s'avancent, viennent en avant, font un appel, ils s'avancent en avant. Lèvent la main, confessent leur foi au Seigneur Jésus-Christ, acceptent de suivre les cours de base de la vie chrétienne, suivent le Seigneur et se font baptiser. Mais ils ne ressentent pas la présence du Seigneur, ils sont même pas sûrs d'être sauvés. Ils viennent me voir en me disant, « Pouvez-vous m'aider, pasteur, parce que je ne sais pas si je suis vraiment sauvé. » Alors, je leur dis, je peux pas vous dire que vous êtes sauvés ou pas. C'est pas mon ministère. Ce n'est pas ma responsabilité. Vous savez à qui revient la responsabilité de vous dire si vous êtes sauvés ou non? C'est au Saint-Esprit. C'est lui qui vous donne l'assurance que vous lui appartenez. C'est son œuvre. Jean dit, nous reconnaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous par le Saint-Esprit qu'il nous a donné. 1 Jean, chapitre 4, verset 13. Y a-t-il quelque chose de plus clair, frères et sœurs? Encore une fois, je répète le verset. Nous reconnaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous par le Saint-Esprit qui nous a donné. Comment savons-nous que nous lui appartenons? Par le Saint-Esprit. Voici le verset qui accompagne celui que je viens de vous lire dans Romains chapitre 8, verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ces deux versets établissent clairement que c'est l'œuvre du Saint-Esprit de nous donner l'assurance que nous appartenons au Seigneur Jésus-Christ. Jean et Paul disent que c'est à cause du Saint-Esprit que nous avons la certitude d'être sauvés. Mes pasteurs diront certains, quel lien cela a-t-il avec la présence de Dieu manifestée dans nos vies? Et quel lien cela a-t-il avec la désobéissance que vous venez juste de mentionner? Simplement ceci, lorsque nous désobéissons à Dieu sciemment et volontairement, les yeux grands ouverts, est-ce que nous savons ce que nous faisons au Saint-Esprit? Nous attristons le Saint-Esprit. Est-ce que vous savez que vous pouvez seulement attrister quelqu'un qui vous aime? Hey, c'est pas anodin pourquoi Paul utilise « N'attristez pas le Saint-Esprit ». Est-ce que vous réalisez, frères et sœurs, que la seule personne que vous pouvez attrister, c'est quelqu'un qui vous aime? Permettez-moi de vous donner un exemple pour vous faire comprendre ce que je veux dire. Les enfants du voisinage, ils peuvent vous vexer. Les enfants du voisinage, ils peuvent vous contrarier. Tandis que vos propres enfants peuvent vous attrister. Quelle est la différence? Le mot « attrister » touche le domaine de l'affectif. Le Saint-Esprit vous aime, mais vous pouvez l'attrister lorsque vous désobéissez au commandement de Dieu. Paul dit, n'éteignez pas l'esprit. Vous savez ce que le mot éteindre veut dire en grec? Le mot éteindre signifie verser de l'eau sur le feu. Le Saint-Esprit est semblable à une gentille colombe, à un charbon ardent. Vous pouvez chasser cette colombe et vous pouvez verser de l'eau sur ce charbon. Paul dit, n'attristez pas le Saint-Esprit et n'éteignez pas le Saint-Esprit. Soyez plutôt remplis du Saint-Esprit. Qui est celui qui vous donne l'assurance de votre salut? Le Saint-Esprit de Dieu. Qui est celui qui manifeste la vie de Dieu en vous? C'est le Saint-Esprit de Dieu. et c'est le Saint-Esprit qui représente à notre époque cette colonne de fumée et cette colonne de feu qui guidait le peuple à l'époque de Moïse. Il est celui qui manifeste la gloire de Dieu dans ce monde à travers son peuple. C'est à travers les membres du peuple de Dieu que le monde peut voir Dieu à l'œuvre encore aujourd'hui, comme il était à l'époque de Moïse. Et c'est à travers le Saint-Esprit que Dieu manifeste sa présence au milieu de son peuple. Frères et sœurs, vous savez ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que quand on sort dehors pour aller parler du Seigneur ou dans notre milieu de travail, on n'est pas obligé de porter des t-shirts, j'ai accepté Jésus, je crois en Jésus, je suis chrétien. Ça devrait transpirer. Lorsque Dieu est présent au milieu de son peuple, lorsque Dieu est présent dans la vie de ses enfants, ça transpire. C'est pas des méthodes que Dieu veut. Ce que Dieu veut, c'est d'occuper la place qui lui revient seule dans nos vies. La première place. Quelqu'un dit que Dieu n'accepte pas de partager sa gloire. Tantôt, c'est vrai. Il est un Dieu jaloux. Et sa gloire, c'est ce qu'il veut faire, c'est ce qu'il veut manifester à travers ses enfants. Paul dit que lorsque nous désobéissons à Dieu, nous attristons le Saint-Esprit, nous éteignons le Saint-Esprit. Et lorsque nous agissons ici, Dieu cesse d'être une réalité dans nos vies. Et c'est à ce moment-là que plusieurs doutent qu'ils sont sauvés. Frères et sœurs, ceux qui sont les plus malheureux dans le monde, c'est pas ceux qui connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ. C'est ceux qui le connaissent, mais qui sont privés de la présence de Dieu dans leur vie. Ce sont les gens les plus malheureux. Pour ceux qui sont à l'extérieur et qui connaissent pas le Seigneur, c'est une vie normale pour eux de vivre comme ils vivent. Mais pour l'enfant de Dieu, qui devrait connaître l'apothéose avec la présence de Dieu dans son cœur, lorsqu'il est privé de cette présence, c'est l'être le plus malheureux de toute la terre. Il n'a pas accès aux bénédictions, il n'a pas accès aux promesses, il n'a pas accès à la présence de Dieu, mais c'est terrible! Il peut crier comme les Israélites, « Malheur à moi! » Et pourtant, tout ce que Dieu veut, tout ce que Dieu veut, prendre toute la place, ouvre les portes de ton cœur, je veux occuper toute la place qui me revient, parce que je veux manifester ma gloire. Tu auras juste à ouvrir la bouche et je vais parler à travers toi. Dans son lit de mort, John Wesley, entouré de tous les pasteurs méthodistes, le témoignage qui est sorti de la chambre de John Wesley après qu'il soit mort, ils ont dit ceci, nous avions l'impression d'être dans l'antichambre du ciel. Et la dernière parole de John Wesley, c'est la suivante, ce qu'il y a de meilleur, c'est que Dieu est pour nous. John Wesley avait la certitude que Dieu était présent dans sa vie. Il en a payé le prix, mais il avait la certitude que Dieu était présent dans sa vie. C'est lorsque nous éteignons le Saint-Esprit et lorsque nous attristons le Saint-Esprit que Dieu cesse d'être une réalité dans nos vies. Et c'est à ce moment-là que plusieurs commencent à douter qu'ils sont sauvés. Jésus dit, « Celui qui retient mes commandements et qui les garde, qui leur obéit, voilà celui qui m'aime. » Jean 14, 21. Chers amis, lorsque les gens aiment réellement le Seigneur, vous ne les voyez pas seulement au culte disant, « Oh, comme j'aime Seigneur, mais comme je t'aime Seigneur Jésus. » Mais ils lui obéissent. Jésus dit, « Celui qui retient mes commandements et qui les garde, celui qui obéit, voilà celui qui m'aime. Mon Père aimera celui qui m'aime. Je l'aimerai aussi, je me ferai connaître à lui. » Et faire connaître à lui dans le grec, je me manifesterai à lui. Je manifesterai ma gloire dans sa vie. Je manifesterai ma gloire à travers lui. Je manifesterai ma gloire en lui. C'est extraordinaire, quelle promesse! Un homme vient voir son pasteur et lui dit, « Pasteur, je ne sais pas ce qui va pas avec moi, mais je ressens plus la présence de Dieu en moi. J'ai aucune joie et la présence de Dieu n'est pas une réalité dans mon cœur et dans mon quotidien comme ça devrait être. » Le pasteur, un homme sage, lui pose cette question directe. Il lui dit, « Y a-t-il un péché connu dans votre vie? Un péché non confessé dont vous ne voulez pas vous repentir? » Au même moment, l'homme répondit, « Bien, pasteur, je dois vous avouer quelque chose. » Et il lui dit le péché qu'il avait dans sa vie. Qu'est-ce que vous croyez que Dieu pense lorsque son enfant agit ainsi? Lorsque Dieu voit son enfant lui désobéir volontairement? Combien Dieu doit être triste, frères et sœurs? N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, c'est aussi ne pas attrister Dieu, puisqu'ils sont la même personne. Combien Dieu doit être triste? Et heureusement que sa première réaction, c'est d'être triste et non pas de déchaîner sa colère. sur des gens qui sont ingrats, qui ont oublié tout ce qu'il a accompli pour eux à la croix de Golgotha. Le pasteur dit, vous pensez que, dit à l'homme, vous pensez mon enfant, que Dieu dit, mon enfant m'a désobéi en choisissant de me voler, en me faisant pas confiance pour prendre soin de mes biens avec ce qu'il a? Est-ce que vous pensez que Dieu va dire cette semaine, je vais te bénir en te soutenant, en t'accordant un soutien financier plus important, et que je ferai en sorte de manifester ta présence en toi? Est-ce que vous pensez que Dieu fera cela, dit le pasteur à l'homme? Non. Pourquoi? Parce que nous avons géré face à moi un homme qui n'est pas disposé, qui n'a pas un cœur disposé à obéir à Dieu. J'aimerais ajouter ceci, frères et sœurs. Est-ce que vous savez qui était celui qui encourageait les membres du peuple de Dieu à désobéir et à faire en sorte qu'il ne manifeste plus sa présence au milieu de son peuple? Est-ce que vous savez, frères et sœurs, qui était celui qui encourageait les membres du peuple de Dieu à désobéir et à faire en sorte qu'il ne manifeste plus sa présence au milieu de son peuple? C'était Aaron! Est-ce que vous savez qui était Aaron? Aaron était un prêtre, un dirigeant religieux. J'aimerais dire ceci, vous trouverez toujours plein de gens qui vous donneront toutes sortes d'excuses, toutes sortes de bonnes raisons pour désobéir à Dieu, et ce même parmi les dirigeants religieux. Ce sont ceux qui vous permettent de vivre en concubinage, de vivre dans l'immoralité, de transgresser les commandements de Dieu, en vous disant que vous n'avez pas à vous inquiéter, puisque les temps ont changé, que les choses sont maintenant différentes, et surtout que Dieu vous comprend. Ça, c'est la phrase magique pour vivre dans le péché. Dieu me comprend. Je tiens à vous rappeler encore une fois les paroles de Jésus. « Celui qui retient mes commandements, qui leur obéit, voilà celui qui m'aime. Mon Père aimera celui qui m'aime, je l'aimerai aussi. » Et je me ferai connaître à lui, je me manifesterai à lui. Maintenant, si certains préfèrent que ce soit un ange qui les accompagne pour les conduire vers la terre promise, et se priver de la présence de Dieu, c'est votre affaire. Mais pas moi. Moi, je veux que Dieu manifeste sa présence dans ma vie à chaque jour. Je ne veux rien de moins, et je ne me contente rien de moins. Posez-vous cette question ce matin, est-ce que Dieu est une réalité pour vous? Est-ce que j'ai refusé d'obéir à un commandement de Dieu? Est-ce que je vis présentement en désobéissant à un commandement de Dieu? Si c'est le cas, il n'y a aucune raison que vous puissiez penser bibliquement parlant que Dieu est présent dans votre vie et qu'il s'apprête à accomplir de grandes choses en vous. La première chose à vérifier, c'est la suivante. Y a-t-il quelque chose, un péché quelconque qui vous empêche ce matin de faire en sorte que Dieu manifeste sa présence en vous? Je suis reconnaissant envers Moïse, qui a eu suffisamment de bon sens pour exprimer son désaccord à Dieu. Chapitre 33, verset 14. 33, verset 15, pardon. Ça, c'est fantastique, ce qu'il vient de dire là. Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Quel serviteur de Dieu. Quel chrétien. Seigneur, je viens d'entendre ce que tu viens de dire. Mais si toi, tu décides de ne pas être avec nous, eh bien, moi, je pars pas. Ne nous fais pas partir, Seigneur. Ne nous fais pas partir. Si tu n'es pas là, Seigneur, on est quoi? On est qui? Quelle phrase de Moïse? Exode 33, verset 15. Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Ça veut dire quoi? Sans la présence de Dieu dans ma vie, je ne pars pas. Qu'est-ce que l'adoration? Est-ce que c'est chanter des cantiques? Non! Est-ce que c'est réciter des prières? Non! Est-ce que c'est venir à l'église? Non! Est-ce que c'est donner sa dîme? Non! L'adoration, c'est profiter, c'est bénéficier de la présence de Dieu dans nos vies. C'est la vraie adoration et Dieu se charge des adorateurs en esprit et en vérité. Dieu vous aime tellement qu'il veut manifester sa gloire en vous et à travers vous. Il veut que vous viviez dans la joie du salut. Et que vous ressentiez cette paix qui surpasse tout ce qu'un homme peut comprendre. Et qui gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Aujourd'hui, Dieu rappelle à son Église à travers la parole de la bouche de Jésus, à travers la bouche de Jésus, ses paroles. Sachez-le, je serai avec vous tous les jours et ce jusqu'à la fin du monde. Mais on devrait faire attention à ce qu'on dit. Quand on le dit, Lorsque Jésus prononce ces paroles, « Sachez-le, je serai avec vous tous les jours et ce jusqu'à la fin du monde » dans Matthieu 28, 20. C'est le même Dieu qui parle en Exode chapitre 32 et 33. Et s'il y a du péché au milieu de son peuple, que ce soit Israël, que ce soit l'Église, on peut dire, « Oui, là où deux ou trois sont rassemblés à mon nom, je suis au milieu de nous, mais s'il y a du péché dans l'Église, Dieu n'est pas là. » Dieu nous dit, nous rappelle, « Je ne suis pas au milieu de mon peuple ce matin, parce qu'il y a du péché au milieu de mon peuple. » Et qu'est-ce qui s'est passé dans le cas de Moïse? La tente d'assignation, on l'a sorti du peuple, on l'a mis à l'extérieur. Dieu a dit, « Je ne suis plus au milieu de mon peuple. » On a sorti la tente d'assignation et Moïse devait rencontrer le Seigneur en dehors, à l'extérieur du peuple. Hey, frères et sœurs, on est là qu'on parle de l'amour de Dieu. Hey, c'est le même Dieu, hein? C'est le même Dieu. C'est pas l'amour de Dieu qui va nous éviter de faire des péchés. Il y a une sœur qui l'a dit dans sa prière tantôt. La sainteté de Dieu. L'amour de Dieu va me montrer jusqu'à quel point quand je pèche, j'attriste le cœur de Dieu, j'attriste le Saint-Esprit. Il est sa sainteté de Dieu qui m'amène dans la crainte de Dieu, qui va m'amener à dire non au péché. Parce que je connais les conséquences, Dieu ne sera pas présent en moi. Voilà pourquoi il est important, quand un membre de l'Église de Jésus-Christ vit dans le péché, qu'il confesse son péché pour éviter que l'Église reçoive les bénédictions du Seigneur et soit privée de la présence de Dieu. C'est pas tout ça d'écrire son nom sur une feuille, dans un cahier de membres de l'Église. Il y a des conséquences à ça. Vous vous identifiez à un corps local. Et vous devez marcher comme le peuple de Dieu doit marcher. C'est l'engagement que vous prenez. Et lorsque vous vivez dans le péché, c'est pour ça que la discipline existe. C'est pour ça que le drapeau des frères et sœurs, ça existe. Pour éviter que le peuple de Dieu soit privé de la présence de Dieu, pas pour excommunier les gens. L'Église n'a pas un ministère d'excommunication, l'Église a un ministère de réconciliation. Mais des fois, avant de réconcilier quelqu'un avec quelqu'un d'autre, de réconcilier quelqu'un avec son Dieu, on doit lui faire prendre conscience que si Dieu n'est pas présent au milieu de son peuple, c'est qu'il y a du péché dans sa vie. Rappelez-vous celui qui avait caché des biens en dessous de sa tente dans un trou, hein? Hey, Dieu comme un satellite, hein, avec son œil. Juste là, regarde là. Hop! Il pense que je l'ai pas vu. Dieu d'amour, il a fait lapider celui qui avait pris le coupable, toute sa famille, les animaux, il a fait tout. Dieu d'amour, Dieu est amour, mais il n'aime pas qu'on rit de lui, il n'aime pas qu'on se moque de lui. Vous savez, il y a des abus sexuels, il y a des abus chez les enfants, il y a des abus des parents, mais le plus grand abus de tout, c'est d'abuser de la grâce de Dieu. Il y a toujours des conséquences qui risquent d'être éternelles, frères et sœurs. Dieu, ce matin, veut un peuple qui marche dans la vérité. Et la première chose pourquoi Dieu n'était pas présent parmi son peuple ce matin, c'est que le peuple avait désobéi. Frères et sœurs, est-ce qu'on marche dans la vérité ce matin? Est-ce qu'on marche dans la vérité? Est-ce que parce qu'on a un péché dans nos vies, ça empêche Dieu de manifester sa présence, sa puissance et sa gloire au milieu de son peuple ce matin? Dieu vous aime tellement, frères et sœurs. Vous ne pouvez pas saisir comment Dieu veut manifester sa gloire à travers vous. Aujourd'hui, Dieu rappelle encore une fois à travers la bouche de Jésus, « Sachez-le, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Frères et sœurs, est-ce que Dieu est une réalité dans votre vie ce matin? Jésus dit, « Celui qui retient mes commandements et qui les garde, qui les obéit, voilà celui qui m'aime. Mon Père l'aimera. Et mon Père aimera celui qui m'aime. Je l'aimerai aussi, je me ferai connaître à lui. » Je me manifesterai à lui. Est-ce que vous voyez le lien que le Seigneur Jésus fait avec la présence de Dieu qui se manifeste dans nos vies et l'obéissance au commandement de Dieu? C'est le même Dieu qui parle en Jésus-Christ, il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oh oui, Jésus, gentil, Jésus. Jésus, il a dit, je suis la porte, je suis ci, je suis ça, il est gentil, Jésus. Je suis content que ce verset-là ait été mis dans la parole. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le Dieu de l'Ancien Testament, celui qui a dit à Moïse, « Je suis », t'envoie, tu leur diras que c'est « Je suis ». Eh bien, il embauche un coin aux pharisiens de son époque, dans Matthieu, dans Jean chapitre 8, en disant, « Avant qu'Abraham fût, je suis ». Pourquoi vous pensez? Le verset tout de suite après. Et ils cherchèrent des pierres pour le lapider. Pourquoi on lapide un gars qui dit « Je suis » C'est quoi ça? Il venait de comprendre que Jésus est en train de dire, celui qui parle à Moïse dans l'Ancien Testament, c'est moi. C'est moi. La même personne. C'est moi. Dieu a envoyé un ange, et je termine avec ça, un ange pour conduire le peuple dans la terre promise. Dieu a envoyé Jésus-Christ pour libérer tous ceux qui croient en lui. Et l'esprit de ce monde, en lui, de l'esprit de ce monde, pardon, afin de nous conduire dans la terre promise. Prions. Seigneur Jésus, manifeste-toi à l'Église de Dedelin. Sois une réalité dans tous ceux qui font partie de cette Église, dans tous ceux qui fréquentent cette Église. Je vous invite à incliner la tête maintenant. Dieu a parlé à son peuple ce matin à travers sa parole. A-t-il mis en lumière un péché dans votre vie qui l'empêche d'être présent dans votre cœur? Vous êtes-il convaincu qu'il n'occupait pas toute la place qui lui revenait dans votre cœur ce matin? À l'époque de Moïse, Dieu a fait grâce aux membres du peuple de Dieu. Pourquoi ne pas faire cette prière maintenant en tant qu'enfant de Dieu ce matin? La grâce vous est offerte encore ce matin. Vous luttez avec un péché depuis longtemps? Remettez ce péché entre les mains du Seigneur Jésus. Il est passé par la tentation, toutes les tentations, et il est capable de vous en libérer. Apportez votre péché à la croix, et en retour, en échange, Dieu va vous offrir la libération sur ce péché. Faites cette prière en tant qu'enfant de Dieu. Seigneur Jésus, je veux que tu te manifestes en moi, et si je t'ai désobéi, je te demande pardon. Si tu n'as pas rejeté ton peuple à l'époque, je sais, Seigneur, que tu ne me rejetteras pas. Tu ne rejetteras pas ma prière et que tu me pardonnes. Car tu as dit, je ne rejette personne qui vient à moi. Merci pour ta grâce. Seigneur, s'il y a quelque chose dans ma vie qui passe avant toi, tu seras à partir de maintenant le premier en toutes choses. Seigneur, si je fais confiance à l'œuvre de mes mains, ou sur ma propre ingéniosité, j'abandonne maintenant. Et si tu m'appelles, Seigneur, à être disponible pour te servir, je me rends disponible. Me voici, Seigneur, tel que je suis. C'est dans le nom précieux de Jésus-Christ que je te prie. Amen.